Rebonjour. Alors, cette intervention avait été annulée au départ. Je ne voulais plus la faire, compte tenu des circonstances, on va dire, d'accueil des UH. Finalement, compte tenu des demandes, j'ai décidé de la faire. Donc, elle n'est pas finie. C'est un document brut. J'ai pas eu le temps de le finir vu ce qui s'est passé. J'avais prévu des images qu'il n'y aura pas. Et du coup, tout ça pour vous dire que comme c'est un texte brut avec certainement des mots, un vocabulaire précis, archéologique, n'hésitez surtout pas à m'interrompre s'il y a un mot, une idée, etc. qui pose problème. Comme elle a dit.
Ok. Du coup, j'ai dit que c'est super important, oui, de poser des questions et tout, s'il y a des mots, des concepts. Après, idéalement, quand même, si vous avez des papiers stylos notés, parce que sinon, si à chaque fois, s'il y a interrompu pour expliquer quelque chose, on n'est pas sorti. Voilà.
Et donc, désolé, ça a certainement manqué d'un peu de fluidité. Du coup, comme le texte n'a pas pu être préparé jusqu'au bout, vraiment désolé. Alors. Je connais plus mon titre.
Ton titre.
Donc, la préhistoire, outil de lutte ou d'oppression, de la naturalisation du genre et de la race. Alors, l'approche des sciences humaines et des sciences naturelles propose une histoire humaine évoluant, pour faire simple, du singe, en passant par le noir un peu sauvage, et aboutissant à l'homme blanc civilisé. Sans s'en rendre compte, parce qu'ayant une histoire moins connue, le genre a subi un traitement similaire par les sciences, et notamment par les sciences de l'évolution comme la préhistoire. Il faut garder ce parallèle en tête. Ces concepts, race et genre, ont été traités de la même façon et ont produit des catégories sociales, validées et presque naturalisées aujourd'hui, qui agissent comme des normes et interviennent comme armes de légitimation et de destruction massive sur les hors-normes et les frics en tout genre. Pour la plupart d'entre nous, dans nos représentations, ce sont des hommes avec un petit H. Quand j'utiliserai « homme », c'est avec un petit H. Et je parlerai d'humain, sinon. Pour la plupart d'entre nous, dans nos représentations, ce sont des hommes, australopithèques ou sapiens, qui acquièrent la bipédie...
Ah oui, pardon.
C'est sûr, ouais. Garde la pêche. Donc, pour la plupart d'entre nous, dans nos représentations, ce sont des hommes, australopithèques ou sapiens, qui acquièrent la bipédie, inventent l'outil, maîtrisent le feu et chassent. Et pour la plupart d'entre nous aussi, nous descendons véritablement du singe, et la race, d'un point de vue génétique, anatomique, existe toujours. Les travaux racistes qui ont légitimé la place inférieure des non-blancs sont légion et plus ou moins connus de tous et de toutes. Que ce soit tous les travaux pour prouver des races physiologiquement différentes dans les années 60, aussi bien que toutes les ethnographies de tribus à la même époque. À bien des égards, les sciences ont contribué au colonialisme et au post-colonialisme. Les femmes, quant à elles, subissent un silence flou sur ces questions. C'est pourquoi le parti a été pris de raconter cette histoire, la préhistoire des femmes, qui demeure mal connue et pourtant joue un rôle de légitimation de ce que vivent les femmes aujourd'hui et plus largement les hors-normes. Nous allons essayer de faire la part entre mythe et réalité. Pour repenser les femmes préhistoriques, ont-elles eu accès à la technique, à l'art? Ont-elles taillé? Se sont-elles servies des produits de la taille? Et pour quelle activité technique? Ont-elles chassé? Ont-elles favorisé la procréation au dépens de leur évolution culturelle ou anatomique? En d'autres termes, ont-elles pu participer, contre toute attente, aux grandes innovations technologiques, bipédie, taille, feu? Et donc à ce qu'on appelle dans les sciences de l'évolution l'anthropogénèse, c'est-à-dire l'apparition et l'évolution de notre propre espèce, sapiens sapiens. Avec la préhistoire, la paléoanthropologie a reproduit les représentations les plus modernes et occidentales qui soient du sexe, du genre et de la race. Elles proposent toutes deux des scénarios où systématiquement le genre et le sexe restent conformes aux normes actuelles et où la race blanchit à mesure qu'elle se civilise, à mesure qu'elle progresse. On peut garder pour cette idée la représentation qu'on a des Égyptiens, par exemple, qui sont particulièrement blancs dans les époques archéologiques. L'idéologie est donc bien présente et elle consiste à légitimer une différenciation actuelle en la renvoyant à un passé où le statut inférieur et passif des femmes, des Noirs, est un fait de nature et les droits concédés découlent d'une pensée humaniste, généreuse, décidée par les hommes blancs qui, eux, procéderaient de la culture. La préhistoire donne une perspective, je cite Pascal Pic, donne une perspective biologico-historique à la différenciation sexuelle et raciale, reproduisant le passage de la nature, les singes, les noirs, les femmes, à la culture, les hommes et les femmes blanches, occidentales, bourgeoises, parfois blondes. Cette présentation renvoie à une volonté de rendre visibles les femmes préhistoriques, pour une fois aux dépens de l'homme avec un grand H, préhistorique entre guillemets, qui est devenu au fil du temps la seule expression grandement, voire exagérément sexuée mâle et genrée masculin, pour désigner les individus en préhistoire. Un tel glissement sémantique est à mon sens dangereux, car il habitue à nier et à effacer toute une moitié de l'humanité et contribue aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, et particulièrement celui des femmes, à les figer et à limiter leurs perspectives. L'homme préhistorique était aussi une femme. Bon, je vais éviter les introductions sur le genre, parce que bon, vous en avez parlé, je vais peut-être juste rappeler très rapidement, au cas où, que le genre est une catégorisation construite et hiérarchisée. L'homme social est le supérieur de la femme sociale. Cette hiérarchisation implique un rapport de domination. Ce rapport de domination présente le lien causal entre sexe et genre. Le rapport de complémentarité entre hommes et femmes apparaît comme un alibi idéologique pour le maintien de cette domination. Cette problématique de genre a permis d'écarter les traditionnelles problématiques de la spécificité féminine ou de la complémentarité hétérosexuelle au profit d'une problématique de la domination scientifiquement plus opératoire et politiquement plus performante. Alors je vais faire une très rapide présentation de la préhistoire, mais vraiment très 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 rapide, que je prends à François Bon, que je vous conseille à tous. Jusque-là, ça va ? Pas trop rapide ? Ok. Donc, à quoi la sert la préhistoire ? Donc, à quoi sert la préhistoire ? Et à quelle fin elle est utilisée ? Donc, la naissance de l'humain, ou la naissance... Donc, à quoi sert la préhistoire ? À définir la naissance de l'humain, ou plus exactement la frontière entre l'humain et l'inhumain. Voici l'une des places assignées à la préhistoire, en particulier à cette préhistoire dite ancienne dont on va parler aujourd'hui, que l'on désigne sous le terme de paléolithique. Donc le paléolithique, c'est la période la plus longue de l'histoire de l'humanité, qui s'étend à peu près sur 4-5 millions d'années, et qui s'arrête à peu près autour de moins de 10 000. Au paléolithique, que ce soit inférieur, moyen, supérieur, les hommes étaient tous prédateurs, nomades, par opposition à la préhistoire dite récente, celle du néolithique, où se développent des économies de production, désormais fondées sur l'agriculture et l'élevage. On passe au paléolithique, on passe de sociétés égalitaires à des sociétés hiérarchisées et inégalitaires à partir du néolithique. J'avais des chronologies de prévues pour que les choses soient plus évidentes, parce que les chronologies sont difficiles en préhistoire, mais malheureusement, on ne s'est pas intéressé à mes images quand j'ai appelé le CA. Oui. Alors, voir sortir l'homme d'entre... Bon, on s'en fiche. On va aller à l'essentiel parce que c'est très difficile de... Sans images, etc. C'est un peu difficile. Si vous avez des questions plus précises sur les chronologies, etc., du coup, on le fera à ce moment-là. Je pense que ce sera plus pratique. Alors... Donc, les activités des femmes ont fait l'objet de diverses interprétations, de disciplines différentes, mais il a été constaté qu'elles se rejoignaient dans deux champs. Celle de l'évolution anatomique des femmes, donc étudie la paléoanthropologie humaine, et celui de l'évolution culturelle des groupes humains, à savoir la préhistoire des comportements et des modes de vie, et ça, c'est donc la préhistoire qu'il étudie. C'est une approche beaucoup plus culturelle des évolutions humaines. Donc, en termes de mythes et de projections sur l'évolution culturelle des femmes au temps préhistorique, les explications les plus à la mode ces dernières années viennent de ce qu'on appelle la psychologie évolutionniste. C'est une nouvelle discipline qui mélange biologie de l'évolution, sociobiologie et psychologie. C'est plutôt anglo-saxon, évidemment. C'est l'étude systématique des bases biologiques de tous les comportements sociaux. Leur argument repose sur cette thèse. Les conduites dominatrices des hommes sont des comportements d'origine biologique, qui est le fruit d'une sélection naturelle. Darwin n'a jamais dit ça, évidemment. Donc, il serait le fruit d'une sélection naturelle depuis les temps préhistoriques. Donc, l'ordre hiérarchisé entre les sexes aurait perduré, parce qu'il aurait été le plus efficace pour la survie et la reproduction de l'espèce. Le rôle de chaque sexe aurait forgé des structures cérébrales, masculin, féminin, mâle donne masculin, femelle donne féminin, très logiquement et binairement. Et donc pour les sociobiologistes, la préhistoire fournit une mine de justification des comportements instinctifs, ce qui très clairement sous-estime nos ancêtres en leur attribuant des actions instinctives, bestiales, sauvages, à un moment donné dans l'histoire. En existe-t-il d'ailleurs à un seul moment donné des actions de sauvages dans l'histoire et non pas comme nous l'attestent toutes les fouilles archéologiques des sociétés, des groupes sociaux organisés, réfléchis, capables d'anticipation, etc. etc. Alors, pour donner un exemple, à mon avis, qui va parler à tout le monde et qui est très 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 représentatif de la façon dont la race a été traitée par les sciences de l'évolution, il suffit de se pencher sur l'anthropologie culturelle, des gens comme Engels, Taylor, Morgan, Bakofen, qui ont été très 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 prolixes sur ce domaine, autant sur la race que sur le genre. Ceux qui sont le plus amusés à donner ce genre d'explication, de cadre interprétatif aux origines humaines sont le plus souvent des anthropologues, des ethnologues, des sociologues, évolutionnistes. Très peu de préhistoriens et de préhistoriennes s'aventurent sur ce genre de questions. On applique de plus en plus un cadre scientifique issu des preuves fournies par la fouille qui nous permettent quand même d'avancer de façon un peu plus rigoureuse, on va dire, que d'étudier des tribus en Afrique. Donc, les anthropologues évolutionnistes, à ce sujet, dès le 19e siècle en Angleterre et aux États-Unis, ont été donc très 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 prolixes. Et évidemment, ils ont été influencés par les sciences de l'évolution de l'époque, en le 19e. Ah, ça marche. Donc, par les sciences de l'évolution. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont proposés de retracer l'évolution de la famille, l'évolution de la monogamie, l'évolution des répartitions sexuelles du travail, dès la préhistoire. J'espère que ça va être assez lisible. Alors, bon, la pensée des anthropologues donc s'est intéressée au concept de sélection naturelle et de sélection sexuelle proposée par Darwin. Et donc aussi sur la répercussion. Et leurs répercussions sur les premières sociétés humaines. Donc, on se propose de retracer l'évolution de la famille, en commençant par l'endogamie primitive. L'endogamie... Ah, c'est sûr. L'endogamie primitive, C'est l'endogamie, c'est quand on choisit son partenaire de reproduction au sein du groupe social. Pour aboutir à l'exogamie civilisatrice de l'homme blanc, il propose que dès le départ en préhistoire, on partait d'un matriarcat originel, africain, avec des déesses de la fertilité, de la terre-mère, etc. Pour aboutir au final au patriarcat des sociétés occidentales contemporaines. Et c'était pour décrire comme un progrès obligé cette succession de phases qui aurait jalonné le devenir de la famille humaine, de la sauvagerie et de la civilisation. Alors, je vais donner des exemples un peu plus précis, parce que ça reste très technique, peut-être. Donc Morgan, par exemple, qui est vraiment le chef de file de ses représentants, a été alimenté par toutes les fouilles archéologiques préhistoriques de cette époque. Alors, son plus célèbre ouvrage, Ancienne société, décrit une humanité ayant successivement traversé les âges de la sauvagerie et de la barbarie pour atteindre enfin celui donc de la civilisation blanche. Chacun de ces âges de l'histoire est divisé en trois stades. La sauvagerie, qui voit se succéder le langage, le feu, la hache et la lance. La barbarie, qui connaît tour à tour la poterie, l'élevage et l'agriculture, et la métallurgie, qui est inconnue pour les périodes anciennes, et le néolithique, qui, pour lui, est la civilisation qui s'incarne dans l'écriture, la poudre, l'imprimerie et la vapeur, etc. C'est vraiment trois stades. C'est vraiment trois stades évolutifs des groupes humains sociaux. Où évidemment, des études récentes ont invalidé toutes ces hypothèses. Des gens se sont intéressés plus précisément au travail des femmes dans tous les groupes sociaux primitifs, en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud. Et ça fait quand même pratiquement 20 ans qu'on se rend compte que les femmes ne sont pas passives au sein des groupes, ne sont pas passives au sein des groupes, mais ont une activité technique, sociale, très importante à l'intérieur des groupes préhistoriques. Bon. On va s'arrêter là pour les exemples ethnographiques, je crois. Je pense que vous les connaissez tous à peu près. On va essayer de faire les exemples d'évolution anatomique. C'est-à-dire qu'on va parler beaucoup de biologie évolutive et d'anatomie. Donc, sûrement que je vais devoir parler beaucoup moins vite. Alors. Donc on disait tout à l'heure que toutes les grandes innovations biologiques viennent des hommes. Les quelques grandes étapes de cette évolution parlent d'elles-mêmes. En 1994, Chaline, c'est un grand paléanthropologue qui est reconnu, etc., propose un scénario qui réactive des vieux mythes bibliques. On est en 1994. Alors, il reconstitue les origines de la famille humaine à travers les circonstances de sa séparation avec les grands singes en Afrique vers 6-7 millions d'années. Alors, les circonstances de cette séparation avec les grands singes, il nous explique que donc, parmi un groupe d'ancêtres communs arboricoles, qui grimpent aux arbres, en marchant semi-redressés, lorsqu'ils sont au sol, existe un individu porteur d'une mutation affectant des gènes responsable de la morphologie de certaines parties de notre corps, à savoir la bipédie, donc le bassin, les hanches, etc. Morphologie osseuse du bassin. Ce mâle devient soudainement bipède, ce qui lui confère un avantage dans la compétition sexuelle. La suite s'imagine facilement, plus de femelles, plus de reproduction, plus de descendance, avec une bipédie marquée. Il s'agit d'un cadre de pensée culturelle, actuel et culturel, influencé par la pensée grecque, anthropocentriste et sexiste. Les hommes transmettent leur caractère et les femmes ne sont que des matrices passives. Pareil, en 81, Lovejoy, paléanthropologue américain, tentative de reconstitution de la vie sociale de Lucy australopithèque, moins 4 millions d'années, australopithèque afarensis. Oh, ça... Elle est bâtard. D'accord. Je vais... Ok, j'ai compris. Euh... Afrique, Lucie, Afrique orientale ou paléolithique inférieur. Donc lui, il nous explique pourquoi et comment la monogamie a été le mode de réalisation sexuelle. Il se trouve que les femelles apharynxis, Lucie, ont une plus petite taille que les mâles. On appelle ça un dimorphisme sexuel marqué. Dimorphisme sexuel marqué. Ouais. Leur bipédie aux femmes, donc, est jugée moins performante. À partir de ces seuls éléments, Lovejoy propose un scénario de l'organisation sociale visant la monogamie. Les femelles ne s'éloignent pas des arbres protecteurs, tandis que les mâles s'engagent dans la savane dangereuse. Ils procurent ainsi de la viande pendant que les femelles s'occupent des petits, instaurant ainsi les bases d'un contrat qui accorderait l'exclusivité sexuelle des femmes en échange de l'investissement paternel. On y retrouve les fondements de la famille occidentale et une répartition des activités des femmes liées à leur nature anatomique, etc., etc. Conception biologisante et essentialiste possible. Pour certains, comme Pascal Pic, je le cite parce que bon, il est plutôt vulgarisant, donc parfois les gens le connaissent. Avec, ouais. Donc pour certains, les différenciations apparaissent non pas au paléolithique, mais au néolithique, donc bien plus tard, avec l'émergence des sociétés agricoles et hiérarchisées, comme je disais tout à l'heure. Donc Pascal Pic, par exemple, qui est aussi quelqu'un qui a pignon sur rue en archéologie et en préhistoire, donc lui, tout en dénonçant, ce qui est très trompeur, les divisions des tâches à la préhistoire, il considère ces mêmes divisions comme, je cite, « un avantage adaptatif pour se procurer les meilleures ressources de l'environnement, même si, précise-t-il, cette adaptation est variable et non absolue. » Il se rapproche de certaines thèses envisageant la division des tâches comme une nécessité sociale, universelle, voire biologique, de survie. Alors maintenant, bon, j'ai essayé de vous montrer un petit peu où est-ce qu'on était en préhistoire, en 2011. Donc science faite par des hommes, pour des hommes blancs. Maintenant, j'ai essayé de, très rapidement, parce que ça fait beaucoup, juste de vous donner quelques éléments de détail de la réalité scientifique sur ces questions, en archéologie. Alors donc, qu'est-ce qu'on sait de la vie sociale des cultures préhistoriques, qui intéresse et fascine énormément de monde. Peu de choses quand il s'agit de preuves attestées par la fouille et surtout pour les périodes les plus anciennes. Donc, ainsi entre les premiers australopithèques, moins 4 millions d'années, et le passage de l'Homo erectus à Sapiens, moins 200 000 ans, seulement 2 squelettes valables et une trentaine de crânes ont été retrouvés. Pour commencer. D'abord, on s'en est pris au mythe de l'homme chasseur. C'est tout un courant en archéologie qui a fait beaucoup de livres sur le mythe de l'homme chasseur, passons. Donc, dans les années 60, on a complètement anéanti toutes les propositions autour de l'homme conquérant, dominant, qui va à la chasse au mammouth, la chasse à l'ours dans les grottes, avec une lance, etc., qui combat la nature sauvage. Bon. Et qui est tellement fort qu'il en arrivait à ce qu'on a aujourd'hui. Bon, on a juste commencé à comprendre que le rôle de la cueillette, tout simplement, par exemple, est évidemment accessible aux femmes, est évidemment accessible aux femmes avec des enfants, etc., etc., etc. Je fais des coupes en même temps que vous, parce qu'on m'a prévenu tout à l'heure qu'il fallait faire plus court aussi. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de forcément... Tac, tac, tac. Ouais. Alors. Alors, bon. Allons plus loin, certains auteurs démontrent que, contrairement aux idées reçues, les femmes préhistoriques ont pu être techniciennes, fabricatrices et utilisatrices d'outils en pierre. Les outils en pierre... Ça marche. On va pas... Les outils en pierre.
Hein ? Quand tu fais des citations, elles te demandent d'aller beaucoup plus lentement. Surtout. Voilà, pour la traduction.
Okay, ça marche. All right.
citation ?
Non.
Donc c'est bon ?
Non, c'est pas une citation.
Vas-y, commence. C'est gentil.
Bon, les femmes ont pu tailler des outils. Les outils en préhistoire, c'est très, 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 très important. Les armes et les outils en silex. C'est ce qui nous permet le plus souvent... D'accord. Non, non, mais c'est vrai que je suis pressée de finir, en fait. Et du coup, c'est vrai que... Ouais, ouais, je suis d'accord. Donc, en termes de réalité scientifique, on va parler du paléolithique. Des évidences du statut des femmes préhistoriques ont quand même pu être mises au jour. Dans les fouilles de sépultures, dans les fouilles de tombes, on ne dégage pas de différence de statut entre les sépultures des hommes, des femmes et des enfants néandertaliens, par exemple, moins 20 000, ou Cro-Magnon, moins 30 000. Ils enterraient tous les morts de la même façon. Au niveau biologique, le dimorphisme sexuel, donc les différences de taille entre mes femmes, entre mâles et femelles, est assez peu lisible dans les fossiles. Lorsqu'il s'agit de squelettes en connexion anatomique et récents, appartenant aux Homo sapiens, c'est les sépultures à partir du paléolithique moyen. Pour laquelle les morphologies osseuses qui différencient hommes et femmes ont été scientifiquement évaluées. Ainsi, durant le maximum glaciaire, à l'époque où les humains nomades ont restreint leurs déplacements, le dimorphisme sexuel est peu marqué, ce qui suggère que ces populations ne présentaient pas de division sexuée du travail telle qu'on l'observe chez les chasseurs-cueilleurs actuels. Les rapports entre les hommes et les femmes n'ont pas toujours été à l'image de ce que voient les ethnologues et les ethnographes d'aujourd'hui. D'un point de vue anatomique, j'avais envie de vous donner quelques exemples d'adaptation du corps par rapport à son milieu, on va dire, et son climat, etc. Quelques exemples d'adaptation qui ont joué en défaveur de la procréation pour les femmes, qui ont des adaptations anatomiques qui ont mis en danger le processus de grossesse et d'accouchement. De parturition, on appelle ça en préhistoire, et d'accouchement. Donc la morphologie du bassin a longtemps été considérée comme une adaptation fonctionnelle à la procréation. Et ce serait constitué sous l'effet de pressions sélectives majeures liées à la bipédie. Ça veut dire que notre corps, pour pouvoir devenir bipède, a dû se transformer, c'est-à-dire qu'il y a eu un rétrécissement du bassin, un avancement du bassin, etc., des déplacements au niveau du corps qui ont... Et donc notre bassin s'est adapté à notre locomotion originale et a modifié sa forme durant des milliers d'années. Pour Evelyne Père, étudier l'histoire humaine, c'est entre autres lire l'histoire réussie, c'est une citation, d'un bouleversement de la hiérarchie des fonctions biologiques. Je répète la citation. Alors, pour Evelyne, étudier l'histoire humaine, ou la préhistoire humaine, c'est entre autres lire l'histoire réussie d'un bouleversement de la hiérarchie des fonctions biologiques au profit du cerveau et à la défaveur de la procréation. En d'autres termes, la préhistoire et l'évolution humaine a favorisé le cerveau des femmes aux dépens de qu'elles se fassent engrosser et se reproduisent. Je vais... Voilà, cet exemple montre plein d'autres scénarios de paléanthropologues dans ce même sens. Les mots sont très je pense que pour la traduction, ça va pas le faire. Je pense qu'un exemple, c'est suffisant. Donc voilà, ce qui se révèle être intéressant dans ces deux adaptations, c'est qu'elles auraient pu mettre en danger la survie de l'espèce humaine. Bon, elles ont juste rendu l'accouchement difficile par le rétrécissement du bassin. Le fœtus a fait l'objet de diverses adaptations, lui aussi, pour pouvoir passer... bon, je vous passe les détails. Parce que c'est quand même intéressant, ceci dit. Parce que, bon, déjà, la durée de la grossesse dure... Le mammifère qui, quand même, a une grossesse la moins longue de tous les mammifères, par exemple. Voilà, 9 mois. Ça veut dire que le bébé passe que dans une seule position au niveau de ce qu'on appelle l'os coxal, ici, le bassin. Voilà. À l'époque, le bébé passait dans toutes les positions possibles, n'importe comment. Il pouvait se présenter par le siège, de côté, de travers, comme ça, bon, ce que vous voulez, il passait. Aujourd'hui, il doit subir une double rotation pour pouvoir passer dans un sens extrêmement précis au niveau des femmes. Ce qui fait que le temps de grossesse a considérablement raccourci. Et que le bébé, le fœtus se développe ex-utéro. Voilà. On va passer. Je pense que vous avez compris les idées. Ouais, je vais conclure, c'est sûr. Je vais conclure là-dessus. Non, ouais. Franchement, 5 minutes. C'est le plus important. Et vraiment, je suis désolée. Vraiment. Parce que le but de ce type de travaux, quand même, c'est de simplifier sans rendre simpliste. Et j'ai bien conscience que le fait de ne pas avoir pu travailler dessus et de le rendre plus fluide, notamment par des images, etc., ça rend les choses un peu plus difficiles d'accès. C'est pour ça que je reste à votre disposition pour des questions plus précises et on aura le temps d'en discuter, peut-être pas aujourd'hui, mais à un autre moment. Donc pour conclure, et si les différences anatomiques actuelles entre hommes et femmes, entre mâles et femelles, étaient d'abord culturelles, voire politiques, est-ce que les différences de stature, de musculature, etc. entre les hommes ne seraient pas politiques finalement? Et ça, c'est Priscille Touraille, que je vous conseille à tous. C'est une thèse qui développe cette idée-là. Priscille Touraille. Et c'est bête, j'ai pas le nom de sa thèse, mais de manière, elle est un peu... Enfin, c'est très trouvable. Enfin. Donc, selon Priscille Touraille, alors, ça va être des citations aussi, donc je vais essayer de les faire le plus lentement possible. On va se dire que l'idée, c'est de poser des points, hein, de balayer un petit peu, de poser quelques idées, et après, on en discutera à un autre moment. Donc, pour Priscille Touraille, les sciences de l'évolution pensent les différenciations morphologiques comme adaptées à la fonction du sexe, donc à la procréation. Elles proposent de les envisager, de les penser comme adaptées aux contraintes sociales, au genre. Sa thèse envisage de comprendre comment la culture travaille comme un système d'adaptation, au sens darwinien du terme, pour expliquer la signification du dimorphisme. C'est-à-dire que les normes sociales peuvent atteindre le biologique. Le genre et sa hiérarchie interviendraient avant les différences biologiques entre les sexes. La question est de savoir à qui ou à quoi profite l'adaptation, à l'individu, au gène. Et donc, elle conclut en se demandant, et si l'anatomie était politique ? Déjà pour Darwin, les dimorphismes sexuels en tant que caractère biologique évoluent moins sous l'influence de pression de l'environnement que sous l'influence des comportements sociaux propres à l'espèce. En conclusion, pour finir, se poser des questions. Le genre, en préhistoire, était-il dans le continuum du sexe ? Était-il hiérarchisé comme aujourd'hui ? Autrement dit, est-ce que le genre était une variable déterminante dès la préhistoire? Ces innovations technologiques et anatomiques qui jusque-là étaient, dans la tête des savants, mâles et masculines, et qui accordaient systématiquement quand les hommes les pratiquaient. La taille, le feu, la chasse, tout ça. Donc quand c'était des hommes qui les pratiquaient, on était d'accord pour leur attribuer systématiquement, de façon systémique, un avantage sexuel, cognitif, social, adaptatif. Et si les femmes les pratiquaient, que pourrions-nous en dire ? Merci.